Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, mes chenilles, mes vers à soi, mes vers à moi. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, mais j'avoue que j'en peux plus de la pluie à Paris et des travaux de mes voisins. J'ai hâte de soleil et de calme. Là, il n'y a pas de bruit, j'en profite pour enregistrer, mais ça peut reprendre à tout moment. Et comme une conne, j'ai fait partir mon lave-vaisselle, donc vous entendez peut-être un léger truc en arrière-plan, je suis désolée. Je rêve de vivre un jour dans une maison avec un réel studio de podcast dédié, où je recevrai mes invités et où je tournerai peut-être aussi des vidéos. Bref, ce serait extraordinaire. Le rodage du nouveau spectacle avance bien, de belles dates de tournée, comme récemment à La Roche-sur-Yon, une spectatrice incroyable au premier rang à laquelle je demande son métier. Elle étudiait les chauves-souris. Je lui ai demandé pourquoi elle dort à l'envers et elle m'a répondu « Bah, c'est plus confortable pour elle, hein, c'est comme les chevaux qui dorment debout. » Non, le vrai fait intéressant, m'a-t-elle dit, c'est qu'elles ne vieillissent pas. Donc cette spectatrice travaillait sur les gènes des chauves-souris, garant d'une jeunesse éternelle. Et en parlant de jeunesse, aujourd'hui on reçoit la formidable journaliste Salomé Sacquet à l'occasion de la réédition de son livre « Sois jeune et tais-toi » en format poche. Salomé a un agenda très chargé, donc je lui suis extrêmement reconnaissante d'avoir pris ce temps et de me faire confiance. Je l'aime beaucoup. On a parlé de son rapport au travail, de son organisation, comment Salomé choisit ses sujets, son envie de dire oui à tout qui l'avait poussé au burn-out, ses résolutions après son arrêt maladie. On est revenu sur son enfance en Ardèche et comment grandir dans une zone isolée l'a rendu plus sensible au sujet des gilets jaunes, par exemple. On a également abordé les questions de barrières mentales et sentiments d'illégitimité, du sexisme croissant chez les jeunes hommes, de cyberharcèlement, deepfake et enfin de la frontière entre engagement et militantisme. Je vous souhaite une écoute passionnée. Alors, chère Salomé, c'est un grand honneur de te recevoir dans mon podcast. Je suis une fan de ton travail, j'ai beaucoup aimé ton livre et je dévore tes vidéoblasts. La dernière avec Goldchief Tefarani est très puissante, très émouvante. Celle d'avant aussi sur les masques, j'ai adoré. Tu as un immense sérieux journalistique et tu réussis finement à t'engager sans t'associer, a priori, à quelconque parti politique. C'est ton intelligence vulgarisée sans militer. Tu m'apprends énormément et je suis curieuse de savoir comment tu choisis tes sujets, comment tu priorises, qu'est-ce qui te touche, t'anime en premier. Et aussi, j'aimerais te parler de la jeunesse, en savoir un peu plus sur ton caractère d'enfant puis d'adolescente. Comme tu l'as peut-être vu dans mon spectacle ou entendu dans mes chroniques, je suis peut-être l'ennemi moi aussi, j'ai peur de la jeunesse. J'ai l'impression d'avoir toujours été vieille et de n'avoir jamais saisi les codes des jeunes. Mais la beauté, c'est que j'ai beaucoup de jeunes femmes dans le public qui elles-mêmes se sentent comme moi, comme de vieux sages et ont une maturité folle. Au final, ces dernières années, je suis passée un peu de réac à woke, perdant en chemin quelques personnes dans mon entourage qui ont beaucoup de mal avec la question des genres, notamment au fait de s'identifier, de vouloir se déterminer. Parmi les féministes, la fracture se joue entre les intersectionnelles et universalistes. Où se joue-t-elle à ton avis parmi les écologistes? Salomé, comment est-ce qu'on se réconcilie? Merci d'être aujourd'hui dans le podcast.
Bah, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être là. Et merci pour cette présentation un peu trop élogieuse, mais je suis ravie d'être là.
Est-ce que tu veux commencer par ton emploi du temps de ces derniers jours et la question de la priorité du travail?
Oh, très grande question, effectivement. Donc là, je suis à plein temps en CDI pour le média en ligne Blast, qui est un média indépendant, qui parle, dans mon cas, moi je parle d'économie et de plus en plus des questions de droits des femmes et de manière générale de grands sujets de société. Et donc j'oscille entre cet emploi du temps à plein temps de journaliste. Et à côté de ça, je parle et j'interviens dans beaucoup de médias, beaucoup sur le service public, à la radio, à la télévision, pour parler de la jeunesse, parce que j'ai écrit donc une enquête qui s'appelle « Sois jeune et tais-toi », que j'ai menée pendant un an et demi, et qui essayait de dresser un portrait de la jeunesse. Et il se trouve qu'il n'y a pas tant de personnes que ça, en fait, qui parlent de la jeunesse dans l'espace médiatique. C'était ça que je voulais aussi dénoncer. Et donc là, ça vient, au moment où on enregistre, ça vient d'être réédité en poche. Donc ça sort aujourd'hui à moitié prix, ce qui était quand même une bonne chose. Et donc, dans mon emploi du temps, j'interviens beaucoup dans les médias pour parler, pour donner mon analyse. Et donc là, juste avant de venir, j'étais sur France Info. Juste après, je serai sur France Inter. Et j'interviens régulièrement à la télévision. Et effectivement, cette question du choix, elle s'est vite présentée à moi, parce qu'il faut savoir que pendant des années, au tout début de ma carrière, j'étais pigiste, j'aurais rêvé de passer à la télévision, de pouvoir qu'on me donne les moyens de faire entendre mes analyses, mon travail journalistique. Et là, d'un coup, on m'a proposé énormément d'interventions, mais c'est venu d'un coup, en fait. C'est particulièrement venu avec la publication du livre, mais déjà avant, il y avait eu quelques buzz, on pourrait qualifier ça comme ça, sur l'écologie me concernant. Donc on m'invitait tout le temps pour parler d'écologie. Et j'ai dû me résoudre à faire des choix, et ça a été extrêmement difficile. Et encore aujourd'hui, c'est quand on a autant travaillé, enfin comme moi, pour pouvoir avoir cette opportunité-là, on a envie de dire oui à tout. Il y a un moment, pour des raisons, dans mon cas physique, j'ai dû arrêter. Donc, j'en ai pas encore parlé d'ailleurs publiquement, c'est une exclusivité. Wow. Mais je disais oui à tout, en fait, avant. Et un jour, je suis tombée très malade. Donc je ne m'étendrai pas pour l'instant sur la nature de ça, mais en tout cas, d'un coup, je ne pouvais plus rien faire. Et donc, j'ai été forcée d'arrêter pendant plusieurs mois tout, absolument tout. C'est-à-dire, j'étais au fond de mon lit, quoi. Je ne pouvais plus du tout bouger. Et depuis ce long arrêt maladie, ça m'a fait complètement reconsidérer cette question du choix, cette question de la priorité du travail. Et donc, j'ai totalement rééquilibré ma vie personnelle avec ma vie professionnelle. Et donc, je choisis avant tout les sujets qui m'intéressent, auxquels je suis sensible et que je considère être d'intérêt public. Je dirais que c'est un peu ça, parce que pourquoi ce qui m'intéresse et auquel je suis sensible, parce que ça me motive quand même pour travailler dessus. Et ensuite, que ce que je considère être d'intérêt public, parce qu'il suffit pas que ça m'intéresse, il faut quand même qu'il y ait une notion, pour moi, qui est centrale dans le journalisme, que ce soit d'utilité publique. Que c'est pas une info que je donne comme ça au hasard, voilà, ton pull est jaune par exemple. Bon, moi je le trouve très joli, mais c'est pas forcément une information sur laquelle je vais faire un JT. Et donc je donne un exemple trivial pour dire que toutes les informations ne se valent pas. Donc moi je me dis, qu'est-ce qui là démocratiquement va nous servir dans notre société? De quoi devraient être informés les gens en priorité? Et je crois que c'est aussi ça notre travail de journaliste, c'est de hiérarchiser l'information. Et donc d'avoir une vision d'ensemble aussi de la société. C'est la question qu'on se pose, c'est de quoi les gens ont besoin d'être informés. Et tous les journalistes se la posent. Même ceux qui se disent neutres, même ceux qui veulent se placer dans une espèce de position de totale objectivité et neutralité. Rien que le choix de l'information est déjà un choix.
Tu dis, je disais oui à tout. Est-ce que tu sens que tu as évolué dans ton féminisme par rapport à cette période? Est-ce que tu penses que c'était un trait de jeune femme un peu naïve d'être aussi facilement d'accepter tout et n'importe quoi? Moi je sais que j'ai pu le faire aussi et que c'est un gros travail encore aujourd'hui. Même on me propose des trucs où je pourrais me permettre de dire non, puis je dis oui, et puis ensuite les gens me disent oh wow, trop bien, elle a dit oui. Mais après, moi je suis bien contente que tu aies dit oui pour venir aujourd'hui. Donc,
mais non, justement, c'est un choix. Et en l'occurrence, parce que j'aime bien ton travail, que je suis contente d'être là, mais c'est un vrai choix. Et il y a des choses que je refuse, des choses. Quand j'y vais, je le choisis. Et je sais pourquoi j'y vais, je me pose cette question. Alors, est-ce que c'était parce que j'étais une jeune femme? En tout cas, je pense que le fait d'être une femme joue sur la confiance en soi. Et ça, ça a été prouvé. De toute façon, les études sociologiques montrent qu'on a quand même des problèmes de légitimité quand on est une femme, surtout effectivement une jeune femme. Je pense qu'il y avait plusieurs facteurs qui jouaient. Moi, j'avais connu quand même une certaine précarité en début de carrière. Et donc, quand on n'a pas eu assez de piges, c'est-à-dire que je n'avais pas de CDI, quand on a eu le stress à chaque mois de se demander si on allait avoir du travail le mois suivant et qu'on n'avait pas des réserves financières particulièrement importantes, on a pris ce réflexe de tout prendre maintenant au cas où il n'y ait plus rien après. Et ça, c'est un réflexe duquel j'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser, même lorsque j'ai obtenu un CDI qui m'assurait quand même un revenu, a priori, le mois suivant. Mais j'avais gardé donc ce réflexe-là. Ensuite, je pense qu'il y a la question effectivement de la légitimité, surtout que moi, je fais le choix d'un journalisme qui n'est pas forcément le plus courant dans la profession, dans la manière de traiter les sujets, dans les sujets que je choisis déjà, mais aussi dans le ton que je peux adopter, dans les intervenants auxquels je donne la parole. Et donc ça me vaut de devoir aussi beaucoup plus prouver, je crois, ma légitimité, le sérieux de mon travail. Et il faut savoir que même en faisant un travail que j'essaie d'être extrêmement sérieux, très professionnel, en respectant la déontologie, je me retrouve toujours avec des critiques souvent quand même infondées. Et donc j'avais ce truc de devoir prouver. Et donc passer dans des médias quand t'as 25 ans, où tu peux passer sur des grosses chaînes de télévision, en plus de ton travail à côté, bon, t'as pas envie de dire non, parce que tu dis ça va me donner de la légitimité. Et donc je pense que c'était un peu un mix de tout ça, où il y avait la question financière, il y avait la question de la légitimité, et la peur aussi que ça s'arrête, qui a fait que donc, j'ai pendant une certaine période, parce qu'en fait, je le dis maintenant à tous les jeunes journalistes, ce n'est pas tenable en fait. Ouais. Vous ne pouvez pas faire 90 heures par semaine pendant longtemps. Ça ne fonctionne pas. Omettre totalement sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie amicale, les loisirs. Moi, il y avait vraiment une période où je n'avais plus un seul quart d'heure de loisirs. Hein. On en était là. Donc, c'était pas tenable. Ce n'est pas d'ailleurs ce que je souhaite à qui que ce soit. Et j'ai eu peut-être la prétention aussi de penser que moi, j'étais plus force, que je pouvais y arriver. Et puis, à un moment, mon corps m'a dit non, ça ne marche pas. Et d'une certaine manière, heureusement. Parce qu'aujourd'hui, je mène une vie, je crois, quand même plus équilibrée.
Est-ce que tu penses que cet appétit, ça vient aussi du fait que tu n'étais pas forcément prédestinée à ce destin de journaliste, à cette image publique ?
Alors, moi, je viens d'un milieu qu'on pourrait qualifier de petite classe moyenne. Avec des parents, en l'occurrence mon père était professeur dans un lycée professionnel, où j'avais quand même un certain capital culturel, c'est pour ça que je précise toujours, je ne viens pas de la classe ouvrière.
Oui, professeur
quand même. C'est pour ça que moi, par exemple, je ne me qualifie pas de transclasse, je fais attention à ça, mais surtout, je pense que ce qui a beaucoup joué dans mon cas, c'était le territoire, parce que j'ai vraiment grandi dans un village de quelques centaines d'habitants en Ardèche, un des départements les plus isolés du pays, avec pas du tout, enfin aucun accès à la ville. On n'allait jamais, quasiment jamais. J'ai dû aller une fois dans une grosse ville quand j'étais enfant, quoi. Donc c'était, on avait vraiment ce côté très très isolé géographiquement et qui faisait que pour moi rien que le fait d'aller étudier dans une grande ville, ça paraissait complètement fou. Et donc il y avait cette idée que le journalisme c'était lointain. C'était quelque chose qui pour les gens qui avaient aussi un tout autre niveau de vie et un tout autre réseau. Et je pense que c'est dans mon cas, c'est ça qui a beaucoup plus joué parce que, encore une fois, j'avais quand même un père... professeur, certes en lycée professionnel, mais professeur quand même, on ne part pas avec les mêmes outils que les autres. Et ça crée, on le sait, c'est un capital culturel. Et d'ailleurs, les enfants de profs réussissent quand même beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que moi, voilà, je ne me qualifie pas de transclasse. Par contre, je vois bien dans le milieu journalistique que ce n'est pas non plus la norme.
Non.
Et qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'enfants, de cadres, de professeurs d'université, et surtout qui viennent de zones urbaines. Et ça change beaucoup de choses. Et ensuite, moi, je n'ai pas fait Sciences Po.
C'est ça.
Et donc, ça, c'est vraiment... journaliste n'a pas fait Sciences Po aujourd'hui hein. C'est
toi.
Très peu. Pour le coup, c'est vraiment une école où beaucoup de gens passent. Et je ne l'ai pas tenté parce que je ne me sentais même pas légitime à... Je crois que j'ai dû le tenter peut-être une fois, un peu à l'arrache, m'inscrire à pas y aller ou une histoire comme ça.
Okay.
Mais c'est une école que je voyais, je savais que ça existait. Je me disais, ah oui, ce serait bien de le faire. Mais ça me paraissait tellement impossible de pouvoir y être admise que j'ai jamais vraiment préparé le concours et essayé de le passer. Ce qui n'a aucun sens, parce que je voulais déjà devenir journaliste. Et jusqu'au bout, j'ai mené d'autres études en pensant que ce serait quand même plus sérieux parce que journaliste, je ne pouvais pas y accéder. Et en fait, cette barrière mentale qui, chez moi, était très présente, et c'est ce que j'essaie de mettre en avant aussi dans mon travail économique. Imaginez si moi, qui encore une fois ne pars pas de zéro, j'ai une barrière mentale qui est aussi importante, un sentiment d'illégitimité aussi puissant. Mais comment se sentent les enfants d'ouvriers, de femmes de ménage, d'agriculteurs par rapport à des métiers comme le métier de journaliste ? Et ce n'est pas qu'une question économique, c'est aussi une raison de capital social, de capital culturel, bon, je renvoie aux travaux de Bourdieu bien sûr, qui crée ce sentiment d'illégitimité tellement puissant qu'on s'empêche aussi nous-mêmes d'accéder ou de même de se donner la possibilité d'avoir une opportunité. Et moi c'est ça que j'ai mis beaucoup de temps à combattre et en début de carrière j'avais encore ça chevillé au corps, l'idée que je n'étais pas à ma place. D'ailleurs, je ne me sentais pas à ma place. Il y a vraiment une rupture, parce que moi, j'ai commencé vraiment à plein temps en tant que journaliste au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et là, j'ai senti cette rupture énorme avec le reste de ma profession, en tout cas dans la rédaction dans laquelle je travaillais, qui était une chaîne de télévision, où les gens... Moi, instinctivement, ça me paraissait évident, ce mouvement des Gilets jaunes, parce que je viens d'Ardèche, où il n'y a pas de train. Il n'y a quasiment pas de transport en commun. Et il n'y a pas d'autoroute. C'est un des départements où il y a le moins en fait, de moyens de transport. C'est très compliqué de se déplacer en Ardèche. Si on n'a pas de voiture dans ce département, c'est extrêmement compliqué de vivre. Donc moi, j'ai été élevée avec la voiture et ça me paraît d'une évidence absolue que dans ce département où je connais beaucoup de gens qui n'ont pas des très hauts revenus et qui ont besoin de leur voiture, si on augmente le prix du carburant pour des raisons écologiques, c'est évident, sans donner d'alternative aux gens, que les gens vont vouloir se rebeller. Et en fait, moi, pour moi, ce mouvement coulait de source. Et je voyais bien que ce n'était pas du tout le cas pour mes collègues qui se disaient « Mais c'est quoi ?» Enfin, Alors, ils ne le formulaient pas forcément comme ça. Mais il y avait une vraie incompréhension. Et moi, j'étais petite stagiaire, ou pigiste, je commençais en pige, qui essayait de dire ça, on n'écoutait pas nécessairement. Et je sentais déjà une forme de décalage. Et je pense que ça m'a aussi donné un carburant, sans mauvais jeu de mots, vraiment vouloir faire entendre aussi la voix d'autres personnes, parce que mes premiers reportages, c'était justement des reportages sur les Gilets jaunes, que j'ai fait pour des médias indépendants, parce que on ne me laissait pas le faire, justement, à l'antenne. Après, je débutais, donc on me mettait tout court, pas à l'antenne, c'était pas que pour les Gilets jaunes. Et je voulais, ça me tenait vraiment à cœur, et je pense que c'est vraiment ce qui traverse l'ensemble de mes sujets. C'est des sujets avec lesquels j'assume une forme de rapport sensible, c'est que ça me tient à cœur de donner la voix à ces personnes-là, de dénoncer cette problématique-là, de donner ces outils d'analyse sur tel ou tel type de sujet. Et j'ose croire vraiment que c'est le cas de la plupart des journalistes. C'est juste que moi, je le dis vraiment, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la conviction aussi derrière et de la volonté d'informer sur un ensemble de sujets plus larges ou avec des angles différents. En fait, en journalisme, tout est question d'angle. On aborde jamais un sujet de la même manière, selon à qui on donne la parole. Toutes les paroles ne se valent pas. Moi, par exemple, je ne considère pas que la parole d'un militant écologiste qui n'a rien et qui se bat pour sauver l'intérêt collectif vaut la parole de Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui participe très activement à la destruction du vivant, de la planète, de nos conditions de vie sur Terre. Je pense que ces paroles ne se valent pas. Et dire qu'on est aimé face à face, ce que font une partie des journalistes, c'est déjà un point de vue, en fait. C'est une manière d'angler le sujet. Et donc, moi, j'ai évolué en ayant une manière peut-être un petit peu différente, parfois, d'angler mes sujets.
Enfin, tu le dis bien dans tes interviews qu'il ne faut pas, attention, à déformer ton parcours en éloge du mérite et que toi, tu t'en es sorti et que donc tout le monde peut s'en sortir. Non, mais par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le fait que tu n'aies pas coché une case institutionnelle comme Sciences Po, peut-être que c'est aussi ce qui fait que ta parole n'était pas formatée et que ton rapport au journalisme ne l'était pas. Et en effet, qu'on voit en France qu'on aime bien créer des débats, là où toi, parfois, tu dis haut et fort, non mais il n'y a pas de débat. Notamment tu vois, sur l'écologie. C'est-à-dire que ce n'est pas des points de vue qui font s'affronter quand il y a des faits scientifiques.
Ah sur l'écologie particulièrement. Alors après, je crois que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, de se transformer, bien heureusement, dans le journalisme. Mais pendant des années, surtout au début, moi j'ai commencé à la rubrique écologie d'une chaîne de télévision, donc j'avais déjà un peu cette sensibilité. Et effectivement, on pensait que l'écologie, c'était un point de vue. Alors que c'était déjà, il y avait déjà un consensus scientifique sur l'origine anthropique du réchauffement climatique, et il a fallu beaucoup de temps pour que justement on fasse entendre que donner la parole à un climato-sceptique, c'est une forme, pour moi, du militantisme pour l'inaction, ou en tout cas pour l'action de destruction. C'est pas du tout de la neutralité. Et je pense que, en tout cas, moi je pense que le fait d'avoir grandi quand même dans une zone très très rurale, ça joue, parce qu'on ne vit pas de la même manière quand même. Je vois maintenant, je suis urbaine depuis une dizaine d'années, je vois bien qu'on ne vit pas de la même façon. Et ça, je pense que ça a pu jouer dans la sensibilité que j'avais aussi à la nature. Moi, j'ai vraiment grandi dans les forêts, la montagne. Tous les étés, les printemps, on allait se baigner dans la rivière. Je faisais de l'escalade à même la roche. Enfin, c'était ce que vous raconteront. Non, mais ce que vous raconteront beaucoup de personnes qui vivent à la campagne, tout simplement. Mais moi, pour moi, il y a eu un rapport sensible aussi à la nature qui s'est créé, qui ne se crée pas forcément quand on vit en plein Paris. Et donc, ça donne un point de vue différent, tout simplement. Là aussi, je ne sais pas, récemment, sur la question des agriculteurs, il y a plein de Parisiens, je pense, qui ne fréquentent pas des agriculteurs.
Non.
Moi, j'ai une très bonne, j'allais dire, j'ai mon, ça veut dire la minoire. J'ai une très bonne amie agricultrice. Non, mais je pense que d'avoir grandi avec cette proximité-là, avec d'autres professions, d'autres milieux sociaux, eh bien, ça crée un point de vue qui, tout simplement, n'est pas le plus représenté. Et ça veut pas dire que mon point de vue est mieux que les autres. Je dis juste qu'il a autant de valeur. Et qu'il y a eu un certain point de vue qui est devenu dominant dans les médias. Et c'est ce que disait, bah, justement, la journaliste et militante Alice Coffin, qui disait que le neutre, c'était la subjectivité des dominants. Mmh. Et je trouve cette phrase extrêmement juste, parce que aujourd'hui, ce qu'on nous présente comme neutre est souvent le regard dominant. Mmh. Et c'est elle, ce qu'elle décrit, c'est que par exemple, si on est, elle parle de l'homosexualité, si on est hétérosexuel et qu'on fait un papier sur les homosexuels, bon bah c'est neutre parce que c'est extérieur, voilà. Par contre, un homosexuel qui ferait un papier sur les homosexuels, oui, ah forcément c'est militant, forcément. Ouais, ouais. Et en fait, pourquoi ? Est-ce que le regard de la personne hétérosexuelle n'est peut-être même pas finalement militant contre leurs droits d'une certaine manière, en normalisant certains comportements ? Je pense que la question de l'homosexualité, elle est hyper frappante, parce qu'il y a eu une vraie évolution. C'est-à-dire que quand on regarde il y a 10 ans, enfin il y a plus de 10 ans maintenant, le mariage pour tous, à l'époque, dire mais les droits, les homosexuels doivent avoir des droits comme les autres, c'est normal, et si vous dites le contraire, c'est de l'homophobie, ça c'était considéré comme ultra militant. Mmh. Aujourd'hui, c'est complètement normalisé. Les journalistes peuvent complètement dire bah, c'est normal que les homosexuels aient les mêmes droits que les autres, sans que ce soit considéré comme une opinion ou comme un avis. Et on voit bien qu'il y a eu une évolution du discours. Et en fait, c'est le cas sur quasiment tous les sujets de société. Juste avant, on parlait des féminicides. Féminicide, c'est un autre terme qui est très intéressant parce que il y a
juste
le choix.
Juste avant hors antenne.
Il y a le choix, oui, juste avant
enfin,
hors antenne.
Hors podcast.
Le sujet est un choix, donc déjà avec encore une fois une forme de subjectivité, mais le choix des mots aussi est important. Féminicide, c'est vraiment un terme, pareil, très intéressant parce que c'est un terme qui a été normalisé notamment en Espagne il y a déjà quasiment une dizaine d'années. Où les journalistes ont commencé à l'utiliser pour dire, bon, en fait, quand un homme tue sa femme dans le cadre de violences systémiques de genre et où c'est les femmes qui sont majoritairement tuées, ce n'est pas un crime passionnel, c'est un féminicide. Ce n'est d'ailleurs pas un homicide comme un autre, entre guillemets. Et donc, qui ont voulu, c'est un terme très politique, féminicide. Et il y a encore quelques années, si on disait ça en France, oh là là, qu'est-ce que c'est que ces féministes ? Forcément, c'est ultra féministe, donc c'est biaisé, c'est militant. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais c'est déjà. On peut voir, par exemple, de nombreux titres de presse, féminicide dans le Var, dans des grands journaux, dans des quotidiens nationaux. Donc, c'est un terme qui est en train de se normaliser. Mmh. Parce qu'il y a eu aussi tout un travail juridique sur la question, il y a des personnes qui ont pris la parole. Mais on voit bien qu'encore une fois, ce qu'on nous présentait comme étant neutre, qui était l'homicide, là, on est en train de doucement se décaler vers le féminicide, qui est en train d'être le terme approprié. Donc en fait, tout est en permanence une question de point de vue. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer de faire en sorte de comprendre quelle place ils prennent dans la société dans laquelle on est et de se rapprocher, bien sûr, au plus près de la vérité. Et c'est là où moi, je ne me considère pas du tout comme militante.
D'accord.
Bien que le militantisme, d'ailleurs, soit une très bonne chose, il faut quand même le rappeler, parce qu'aujourd'hui, militantisme, c'est utilisé comme une insulte. C'est-à-dire que moi, quand on me dit militante, d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, au moment où on enregistre, François de Rugy, ancien ministre de l'écologie, président de l'Assemblée nationale, m'a invectivé sur Twitter, je n'ai rien demandé, je n'ai jamais eu d'interaction avec lui, je précise, pour dire que j'étais une fausse journaliste, ce qui est quand même des accusations très graves, et qui est donc militante, alors anti-science. Ah mais je vous pouvez...
On parle du gars qui a pas facturé ses homards,
oui,
c'est
ça. Oui, c'est ça, c'est lui. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, au-delà du fait qu'il y a fausse journaliste et anti-science, arrêtons-nous sur le terme militante. C'est-à-dire que pour lui, c'est une insulte.
Waouh.
Et
ouais.
Alors, moi, encore une fois, je ne suis pas militante, je considère absolument pas l'être, mais rappelons-nous que nous n'aurions pas le droit de voter, nous
bien
les femmes,
sûr,
s'il n'y avait pas eu
pas
des militantes, pour que nous ayons ce droit. Nous n'aurions pas accès à un hôpital public, à la santé pour tous, s'il n'y avait pas eu des militants qui avaient permis ça et des personnes qui avaient œuvré de ce côté-là. Nous n'aurions pas une protection contre certaines pollutions s'il n'y avait pas eu des militants écologistes. Mmh. Donc en fait, les militants, globalement, c'est aussi ceux qui font avancer la société, il faut quand même le rappeler, dans de très très nombreux cas. Dans le cas, moi, du journalisme, encore une fois, je pense que certains peuvent être militants et journalistes. Moi, je garde une vraie distance avec les partis politiques. J'ai jamais d'ailleurs milité dans aucun parti. J'aurais pu, hein, sans que ce soit une insulte, mais ça n'a jamais été le cas, même pendant que j'étais étudiante. Je n'ai aucune proximité réelle avec des associations, des organisations, bien que je puisse utiliser leur travail, dialoguer avec eux, tout ça. Mais j'ai une posture de journaliste qui est de respecter la charte de Munich, donc c'est à ça qu'on se réfère. Ce qui veut donc dire, encore une fois, je ne dis pas que tous les points de vue se valent, toutes les infos se valent pas, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, on a un point de vue, on a un angle qu'on choisit en tant que journaliste, et après on a une méthodologie et une déontologie qui est propre à notre profession, qui est donc de recouper les sources, penser contre nous-mêmes, et ça c'est extrêmement important, essayer de se rapprocher au plus proche de la vérité. Et donc nous, notre ennemi absolu, c'est la mauvaise foi, on suit un protocole quand on est journaliste, on fait pas une enquête n'importe comment. C'est pour ça que c'est pas juste, on fait des tweets comme ça, et ça c'est pas du journalisme. Derrière, il y a un travail de recherche, d'analyse, d'aller chercher les acteurs de terrain, de comprendre, d'aller donner la parole à des chercheurs compétents sur le sujet, et donc c'est ça, mon travail. Et souvent, ça, toute la nuance que j'essaie d'apporter là, à ce micro, c'est quelque chose, on me laisse pas le temps de l'expliquer, et donc on va me mettre dans une case et on va me dire, ah non mais ça y est, elle est militante, ou alors ça y est, vous dites que c'est subjectif donc tous les points de vue se valent. Non, c'est pas non plus ce que je suis en train de dire.
Non, t'es engagée, et d'ailleurs en fait finalement la meilleure expression de ton engagement c'est le choix de tes sujets.
Complètement. En fait moi je suis engagée dans mon métier, c'est mon seul engagement, c'est l'information du grand public, c'est-à-dire que moi mon combat c'est d'informer les gens. Et si ça c'est considéré comme un engagement, bah dans ces cas-là, oui, je suis engagée. Mais je suis pas, je considère pas, encore une fois, militer dans aucune structure. D'ailleurs, enfin, j'ai pas une feuille de route. Si demain quelqu'un vient me montrer qu'on s'était trompé, en fait, il y a pas de réchauffement climatique, mais j'en serais ravie d'informer la population sur cet état de fait. Si on me dit, ah bah écoutez, là, ça y est, les féminicides se sont effondrés, en fait, les femmes ne se font plus tuer, mais je serais ravie de le documenter et de dire, eh bien, bravo. C'est pas une espèce de combat dans le vide comme ça. C'est vraiment non. Là, je documente ce que je considère être d'intérêt public. Et en l'occurrence, quand on compromet les conditions d'habitabilité de la planète, quand on laisse prospérer une très grande pauvreté, parce que c'est aussi beaucoup mes sujets, en disant on n'a pas d'autre choix, alors qu'en fait on a d'autres choix, je crois que c'est mon rôle de le documenter, d'en informer les gens. Mais par exemple, moi je préconise jamais de solution. C'est un truc qu'on me demande beaucoup sur les plateaux, mais du coup faut faire quoi?
Mais non, tu fais pas de politique.
Et moi j'ai dit, mais ce n'est pas mon rôle. Moi je peux vous dire que tel sociologue ou tel spécialiste, scientifique, agronome propose ça, que c'est soutenu par telle partie des scientifiques, que ça semble quand même a priori une solution cohérente. Mais d'ailleurs, j'ai pas d'opinion sur... Là, en l'occurrence, c'était le nucléaire, par exemple. Le grand truc. On m'a dit que j'étais militante anti-nucléaire. Bon, il se trouve que moi, je me suis jamais exprimée dessus, parce que c'est un sujet hyper compliqué.
Très complexe.
Non, surtout, je pense que là, pour le coup, j'ai pas les compétences requises, tout simplement. Il faudrait que je m'y penche beaucoup plus. Ouais. Et donc, je ne me permets pas de donner une opinion en plus comme ça. Par contre, à Blast, notamment ma collègue Paloma Moritz, reçoit des personnes qui ont des avis très divergents sur le sujet.
Oui.
Et nous, notre rôle, c'est pas de dire c'est bien ou c'est tant de nucléaire qu'il faut utiliser, machin. C'est de dire, bon, voilà ce que disent les spécialistes du sujet, et on essaie d'inviter des gens qu'on considère légitimes dans leur domaine, mais qui sont pas toujours d'accord. Mmh. Et en économie, moi, j'en ai plein que je reçois qui sont pas d'accord. Sur les droits des femmes, par exemple, sur la question du droit, eh bien, il y a des femmes qui, rien que là, sur l'inscription dans la Constitution, il y a un vrai débat sur liberté garantie, est-ce que ça vaut... est-ce que ça vaut droit, ou sur la question de l'inscription du consentement dans la directive européenne.
En effet.
Il y a des personnes que j'estime très compétentes, qui ont des avis quand même divergents sur le sujet. Donc moi, s'il n'y a pas un consensus, eh bien, je ne vais pas dire...
Oui, faire de la presse people. Enfin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut que ce soit suffisamment sérieux pour que...
Ben, en tout cas, moi, j'essaie d'avoir des interlocuteurs que j'estime légitimes et je leur donne la parole. Parfois, même, je les confronte. Mais par contre, je ne vais pas aller chercher Jean-Michel pense que les droits des femmes, de toute façon, ça ne sert à rien. Enfin, je ne considère pas que c'est un interlocuteur, en fait.
Oui.
Donc, je vais discuter avec des gens qui, globalement, quand même, prennent les questions, les faits, tout ça au sérieux, et qui parfois apportent des solutions très différentes. Et c'est pas mon rôle de dire ça, c'est la bonne solution. Ou... Et c'est pour ça que moi, je m'écarte vraiment de leur militantisme, tout en respectant beaucoup l'activité des militants, qui, encore une fois, je trouve, sont des choses fantastiques, parce que c'est pas mon métier, en fait, tout simplement. Et je pense qu'on a besoin de journalistes qui font leur travail, en tout cas, avec sérieux.
Oui, et puis en fait, que ce soit la question du militantisme ou de la politique, en fait, dans les deux cas, toi, t'es pas là pour être élu, t'es là pour être lu. Donc c'est pas le même endroit. Tu ne récoltes pas des votes. T'es pas en train de. Et c'est ce qui fait toute la différence, en fait, que les gens apprécient ou suivent ou s'abonnent.
Après, il y a quand même un enjeu. Si je me mettais à ne plus avoir de public, je perds mon travail. Donc.
C'est pour que tu sois convaincante.
C'est pas du tout autant qu'un politique. Et je pense que surtout, c'est pas les mêmes. Moi, je suis pas là pour proposer des solutions qui plaisent, mais pour un travail, pour proposer un travail qui a l'air sérieux. Et je pense que c'est ça que les gens attendent d'un journaliste plus que d'un politique. C'est qu'ils savent très bien que moi, je suis pas là pour leur dire voilà le programme pour que tout aille mieux, parce que je n'en ai pas. Mais que par contre, ils peuvent comprendre des grands sujets de société et que moi, j'aurais essayé de faire une analyse sérieuse. Professionnel, avec toujours le risque que je me trompe. Et ça m'arrive régulièrement. Je me trompe, je fais des erreurs. Surtout qu'on n'est pas non plus des équipes énormes. Et je pense que là encore, c'est un travail qu'on doit absolument faire en tant que journaliste, dire qu'on s'est trompé. Que là, récemment, par exemple, j'ai fait une formule très maladroite sur France Inter, sur les Tradwives. En fait, je voulais expliquer que les femmes qui s'inscrivaient dans un... contre le féminisme, en fait, et qui promouvaient le fait de rester à la maison et que c'était vraiment la meilleure façon de faire, et qui étaient très critiques sur le féminisme, eh bien, elles le faisaient parce qu'elles étaient aussi déçues de la société et que le monde du travail était très violent, plus pour les femmes que pour le reste de la population. Et j'ai eu une formule où j'ai dit le féminisme n'a pas tenu ses promesses. Et en fait, je voulais dire le féminisme tel qu'on l'avait vendu, mais bien sûr que c'est pas la faute des féministes.
Si.
Mais en fait, c'est vrai que la manière dont je l'ai dit, c'est indirect, pouvait être mal interprétée. Ça a choqué. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages. Eh bien, j'ai dit publiquement, effectivement, je n'aurais pas dû employer cette formule. C'était une erreur. Et je comprends si certains ont compris ce que je voulais dire, d'autres n'ont pas compris. Quand il y a autant de gens qui n'ont pas compris ce que vous voulez dire, c'est que, à part s'il y a eu un montage ou un truc comme ça, c'est quand même qu'on fait une erreur. Et je pense que c'est ultra important d'avoir cette transparence-là et de ne pas dire « je me trompe jamais ». Moi, je dis « je fais de mon mieux, je suis honnête, je suis professionnelle ». Après, vraiment, parfois, je me trompe. Et je le dis quand je me trompe.
Ouais, mais c'est aussi le risque d'oser la nuance. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ton émission sur les masculinistes avec ton invité journaliste.
Pauline Ferrari, ouais.
Pauline Ferrari, incroyable. C'est notamment toute la fin de l'émission que je trouve hyper courageuse parce que donc pendant une heure, vous démontez voilà, les mécanismes et enfin, l'horreur de ces mecs, leur danger, voilà, à quel point ils sont. Et puis tout le procès Amber Heard, à quel point on a été totalement manipulés. Mais à la fin, vous apportez un point de nuance intéressant. La journaliste raconte qu'à force d'enquêter sur ces pauvres mecs, elle a fini par en ressentir de la pitié pour eux.
La compassion, je crois, elle dit de la compassion.
Ah, de la compassion. Tu vois, comme quoi les mots sont importants, intéressants. Et je me suis dit, ok. C'est là où je vois que je me suis dit, ah oui, c'est une discussion très intéressante entre deux journalistes. Et peut-être que parfois, peut-être que ça me touche plus. Peut-être que si ça avait été deux activistes, il n'y aurait pas eu ce dernier point levé. Parce que, est-ce que ça affaiblit le message d'apporter une pointe de compassion envers ces types qui font autant de mal aux femmes? Moi, j'ai trouvé que c'était exactement ce que tu décris dans la pensée contre soi. Je me suis dit, ok, voilà ce qu'on défend, mais si on pense contre nous et qu'on se met en face, presque comme dans le droit, quoi, comment ça élargit. Et je trouvais ça assez passionnant. Mais je me dis, oui, tu sors cet extrait, il peut être retourné.
J'ai eu peur.
Ouais.
Cette émission, elle m'a beaucoup, beaucoup coûté. Je dois dire que... Tu parlais justement de comment on choisit ces émissions. Il y a un autre facteur que je n'ai pas évoqué aujourd'hui, c'est le potentiel cyberharcèlement que ça va procurer. Moi, j'en parle beaucoup parce que... J'en parle de plus en plus d'ailleurs, parce que c'est un énorme sujet et que ça régit une grosse partie de mon travail aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis exposée à un cyberharcèlement qui est vraiment de plus en plus violent et un sujet sur les masculinistes. on se doutait que ça n'allait pas... Ça allait être compliqué, donc ça l'a été, effectivement. Et j'avais peur des extraits qui allaient être sortis de leur contexte, parce que c'est une émission de 50 minutes où, justement, on essaie de revenir dans la nuance sur ce qu'est le phénomène masculiniste, sur donc, ces hommes qui sont... Son livre, il s'appelle Pauline Ferrari, formé à la haine des femmes. Et je trouve que c'est très juste, parce que c'est exactement ça. C'est des hommes qui sont formés à la haine des femmes, particulièrement en ligne, et qui sont... particulièrement intégrés dans la société aussi. C'est pas des gens complètement isolés de leur côté qui sont complètement fous, pas du tout.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
C'est ça qu'on voulait justement montrer, en fait, qu'elle a montré. Moi, je l'ai interview parce que je trouvais son livre formidable et qu'elle explique ça très, très bien. Et on voulait expliquer aussi ce qui pousse des hommes de manière croissante. C'est quand même ça qu'il faut rappeler. C'est ce qui est confirmé notamment dans le dernier rapport du Haut Conseil pour l'égalité, qui montre qu'il y a un sexisme croissant chez les jeunes hommes, ce qui est quand même assez préoccupant. Eh bien, dans ce qui pousse les hommes, eh bien, il y a des troubles de la santé mentale. Mais pas des troubles genre, ils sont fous. Des troubles... qui est d'ailleurs ultra, comment on appelle ça, psychophobe de dire ça. Enfin, de faut faire attention aux termes qu'on emploie sur les questions de santé mentale. Mais il peut y avoir de la dépression, de l'anxiété, du sentiment d'exclusion, une grande détresse en fait. Et souvent, c'est des hommes qui vont avoir cette détresse-là, qui vont être plus facilement happés par justement ces réseaux-là. Et elle explique qu'une des grandes portes d'entrée, c'est les cours de séduction. C'est-à-dire qu'à la base, c'est pas des hommes qui ont spécialement la haine des femmes, c'est des hommes qui n'arrivent pas à lier avec des femmes. Et en fait, ça, c'est une souffrance. C'est une vraie souffrance. Et au lieu de tomber sur des hommes qui vont leur expliquer voilà, gentil, il faut respecter les femmes, c'est vraiment... Enfin, qui vont donner une vision très féministe de la chose, ben, ils vont tomber sur des hommes qui vont dire ben, c'est de la faute des femmes. Je caricature un poil, mais il faut... alors, ça dépend en fait des niveaux. Il y a plusieurs niveaux pareil, de masculinisme et de nuances là-dedans. Mais je voulais expliquer ça pour dire c'est plus compliqué que juste c'est des méchants. Et de manière générale, quand on parle d'ailleurs de féminisme, quand on parle de toutes les violences faites aux femmes en tant que journaliste, on se doit absolument de ne pas rendre les hommes qui commettent les violences monstrueux. C'est ce que déjà disait Adèle Haenel quand elle disait il n'y a pas de monstre en fait. Ce sont, et c'est précisément des violences systémiques, et c'est précisément parce qu'on continue à penser que les hommes qui font ça sont des monstres, qu'on n'entend pas quand on nous dit que notre frère, notre ami, notre voisin, notre père a pu commettre des violences et qu'on n'arrive pas à croire ça. Et quand on comprend que c'est intégré dans la culture, quand on comprend qu'en fait beaucoup d'hommes sont susceptibles de commettre ce type de violence une fois dans leur vie, on peut mieux comprendre comment lutter contre. Et c'est effectivement des nuances parfois qui sont difficiles à rendre audibles dans le débat public, bien que ça progresse quand même grandement ces derniers temps.
Mais c'est très intelligent et franchement, j'ai aussi, après, les gens peuvent détourner un peu tout et n'importe quoi s'ils en prennent un extrait, s'ils écoutent l'émission entière, il n'y a rien à vous reprocher, c'est juste excellent. Donc justement, je te posais dans mon poème la question de la réconciliation. Est-ce que toi, on t'a accusé de sale woke ?
Oula, oui, tant de fois. Oui, alors moi, je crois que j'ai été accusée d'à peu près tout. Vraiment, ça y est, là, en quelques années de journalisme, je pense qu'on m'a accusée, mais de tout. Je pense qu'il n'y a pas un truc duquel on ne m'a pas accusée. C'est-à-dire qu'on m'a accusée d'être islamiste, donc j'ai reçu des trucs, mais genre, j'encourage le terrorisme, continue à sucer des Arabes, enfin des messages comme ça, donc voilà, sympa. Et de l'autre côté, on m'a accusée plusieurs fois d'être raciste, parce que je n'avais pas donné une dimension antiraciste à tel ou tel sujet. On m'a accusée donc d'être, justement, d'être anti-féministe, mais aussi d'être une sale féministe hystérique. On m'a vraiment accusée de tout et son contraire. Je crois que c'est, de toute façon, c'est les réseaux sociaux qui font ça. Mais avec une virulence assez extraordinaire. C'est vrai qu'au début, on n'est pas prêt. Hein.
C'est clair.
Et on peut se faire vraiment, en fait, souvent, le truc qui tue, c'est les extraits sortis de leur contexte.
Ouais.
Et c'est le fait qu'on vous prête des intentions. Moi, parfois, il y a des gens qui rédigent des threads entiers pour me prêter des intentions qui vraiment ne sont pas les miennes. Ah, et ça, c'est du coup, ça prend des proportions pas possibles. Enfin, je pense que cette histoire du nucléaire, elle est vraiment... vraiment, c'est une interview d'un plateau. C'est même pas moi qui mène l'interview de Jean-Marc Jancovici, qui se passe très bien. D'ailleurs, je lui pose des questions où tout va bien. Je lui pose des questions, sur la démocratie, je crois, c'est sur le plateau de France 5. Et à un moment, il fait une comparaison entre le nucléaire et le Kinder Bueno, et les Kinder Bueno en disant que c'est à dangerosité égale, et moi je tique sur la formule de langage. Parce que je trouve que c'est pas... Est-ce qu'on compare vraiment le nucléaire à des Kinder Bueno ? Ça veut pas dire que je suis anti-nucléaire, ça veut pas dire que je remets en cause son expertise sur le sujet. Simplement, ça me fait tiquer, et on me voit tiquer, et je lui dis, vraiment, je sais plus quelle phrase j'utilise exactement, je lui dis, est-ce qu'on peut vraiment comparer ça ? Globalement, c'est tout ce que j'ai dit. Et en fait, à partir de là, ça a été isolé. Il y a des militants d'extrême droite et aussi des personnes pro-nucléaire qui l'ont repris en disant que j'étais une journaliste anti-nucléaire, alors que vraiment, vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez. J'ai juste jamais documenté ça, donc je ne me suis jamais exprimée dessus. C'est pas possible que vous trouviez des traces de militantisme anti-nucléaire de mon côté. Et donc, c'est devenu, ça a été repris à l'époque par l'ancien ministre des Transports, Djebari.
Ah, l'ancien.
C'était, donc pour vous dire que ça, par des députés de la Macronie, donc des responsables politiques de haut niveau, qui ont repris, qui ont qualifié de journaliste anti-nucléaire. Ce que, encore une fois, n'est pas prouvable. Ce n'est pas possible. Et là, ça a quasiment 2 ans, cette histoire. Là, ça vient d'être repris par l'ancien ministre de l'écologie.
C'est pour
dire à quel point on peut être, notre parole peut être travestie avec un extrait sorti de son contexte où, effectivement, ça a l'air d'accréditer la thèse que... Mais en fait, derrière, si on fait des recherches, c'est pas le cas. Et ça, c'est très, très, très souvent, avec quasiment tous les sujets, que ça m'arrive sur les réseaux sociaux. Et donc, ça, c'est fatigant. Et effectivement, on est accusé de tout. Et de l'autre côté, je tiens à contrebalancer. Moi, j'ai aussi beaucoup appris des réseaux sociaux. Il y a aussi plein de personnes qui me font des remarques très constructives sur mon travail. Parce que il y a évidemment de quoi critiquer. Déjà, ça me permet de voir quand je me suis trompée, encore une fois, ça arrive. Ça me permet aussi d'intégrer, je disais, tout est question d'angle. Donc ça me permet d'intégrer d'autres angles, d'autres manières de voir les choses, de voir les angles morts que j'ai eu. Et il y a des personnes qui m'ont permis vraiment de voir, notamment le caractère, tu parlais d'intersectionnel. Oui, moi je crois globalement que les oppressions peuvent se rejoindre dans plein de cas et que c'est important de le notifier. Et par exemple, j'ai beaucoup appris là-dessus ces dernières années grâce... Mais en fait, vraiment, je le dis même aux gens qui m'écoutent, si parfois vous les critiquez, m'invectiver sous une publication et me traiter ou me prêter prêter des intentions qui sont vraiment négatives, ça m'aide quand même difficilement à progresser. Par contre, quand on m'écrit un message, en privé c'est encore mieux, mais où vraiment on me dit « bon, j'aime ton travail, mais là en fait, ça et ça, t'as vraiment évincé, attention, moi je trouve que t'aurais pu intégrer cette dimension où tu... » Et ben en fait, moi je le prends vraiment en compte, c'est en permanence, on est en train de se remettre en question et c'est hyper agréable. Je dirais même que c'est vraiment très très agréable quand il y a des messages construits et polis. Je sais que ça paraît bête, mais juste si on peut nous parler en nous agressant pas, c'est quand même toujours plus sympa. Et je trouve que c'est un des aspects ultra positifs.
Ouais.
Et moi, sur les commentaires YouTube, parfois vraiment, on nous met en avant certains angles que j'ai loupés. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de louper des angles. Et si on revient à mon travail d'il y a 4-5 ans, il ne ressemble pas à mon travail d'aujourd'hui. Et je pense que mon travail dans 10 ans ne ressemblera pas au travail d'aujourd'hui. Et donc, les réseaux sociaux, voilà, c'est vraiment... c'est à double tranchant. Mais la haine, elle est... Faut être sacrément préparé, quand même, pour faire face à ça. Ça s'improvise pas, quoi.
Mais qu'est-ce qui te touche le plus, parfois? Est-ce que c'est des... Ça va être... Des inconnus, des trolls, des étrangers, des gens qui détournent, ou est-ce que ça va être toi contre toi-même quand ça touche peut-être en effet un angle que t'as raté alors que t'as travaillé dur?
Ouais, je crois que c'est ça. En fait, bon, ce qui touche le plus, en tout cas ce qui rend le truc le plus difficile, ça reste les menaces quand même, qui ne sont pas du tout majoritaires, qui ne sont même pas quotidiennes dans mon cas, mais qui sont quand même régulières. Où ça a créé une espèce de climat depuis toutes ces années à recevoir en fait des années de menaces, qui, encore une fois, sont pas « je reçois pas 400 menaces par jour », on n'est pas du tout dans ces dimensions-là. Mais quand même, c'est arrivé plusieurs fois. Et ça m'est arrivé dans la rue, qu'on me reconnaisse, qu'on ne m'agresse pas, je ne me suis jamais fait agresser, mais qu'on me dise « ah, toi, la militante, là, j'aime pas ton travail ». Et en fait, ça rend le truc, ça crée un espèce de truc d'hostilité. Et moi, mon nom n'est pas sur ma boîte aux lettres, mon gardien est prévenu qu'il ne doit pas dire que j'habite là. Je fais très attention quand même, de plus en plus. Et je vois que dans mes réflexes, j'ai intégré une manière de voir le monde où je suis quand même un peu menacée, alors que je n'arrive pas à savoir dans quel... En fait, globalement, il ne m'est jamais rien arrivé, je précise. Mais ça a été émis comme menace.
Bien
ça
sûr.
A planté la graine que potentiellement ça peut m'arriver. Donc je continue à vivre très normalement. Mais je peux faire attention quand je reçois un colis d'une personne que je connais pas. J'ai quand même un truc de méfiance. Et ça, je pense que c'est le résultat d'années d'exposition à la haine et aux menaces. Donc ça, c'est une chose qui, encore une fois, je le répète, n'est pas majoritaire. La majorité des commentaires que je reçois ne sont absolument pas des menaces. Mais il suffit de quelques-unes pour que ça fasse un petit peu peur. Et ensuite, effectivement, il y a le côté campagne de discrédit qui, dans mon cas, font beaucoup de mal. Alors, non pas personnellement, mais parce que je sais le coût journalistique que ça a pour moi, puisque ma réputation,
Et ton jeu, ouais.
C'est mon travail.
Bien sûr.
Donc si demain on pense que je suis pas sérieuse, moi j'ai plus de travail. Donc j'ai besoin de préserver ce sérieux. C'est pour ça que je fais aussi très attention dans ce que je fais. Et quand il y a des ministres qui disent publiquement que je suis une militante anti-nucléaire, alors que ce n'est pas le cas, c'est un vrai problème. C'est pas que ça me touche personnellement, mais c'est compliqué, en fait.
Ils s'attaquent à ce que tu as de plus précieux.
Ils s'attaquent et ils le savent très bien. Et ils le font en toute connaissance de cause, il faut bien le savoir. Parce que c'est un jeu d'image publique, de toute façon. Sauf que là, c'est particulièrement malhonnête, vraiment, en l'occurrence. Et donc, c'est embêtant. Et c'est pour ça que là, c'est ma journée de médias pour parler, justement, de la sortie poche de mon livre. Et je me trouve à gérer ce que j'ai vraiment pas du tout envie de gérer, une réponse publique à des accusations qui sont fausses, et à devoir protéger et défendre cette image, alors que vraiment...
Est-ce que tu dois répondre ?
Flemme. Ben alors, c'est toujours la grande question. Je le fais quand je considère que ça porte vraiment atteinte à mon intégrité et que j'ai les moyens et la force de répondre. Et c'est marrant parce qu'on en parlait justement avec un ami juste avant de venir ici. Il y a quelques années, donc on m'a fait la même accusation et j'étais tellement terrorisée parce que la vidéo avait fait 5 millions de vues et que ça avait pris de telles dimensions que j'étais tellement mal que je n'avais pas répondu. Alors que moi, je sais très bien que j'aurais pu répondre.
Oui, mais...
J'avais pas osé, parce que j'étais trop mal, en fait.
Bien sûr.
Et parfois, ça nous met à terre. Enfin, vraiment, j'avais reçu des centaines de messages et de commentaires, peut-être même des milliers à l'époque, pour m'expliquer que...
Tu peux rappeler le contexte de la vidéo ?
C'était le contexte de la vidéo antinucléaire avec Jean-Marc Jancovici, qui date, en fait.
C'était déjà ça ?
Ah oui, ça fait plusieurs... Mais celle-ci, ça, je le prends, parce que c'est du coup l'exemple. Mais j'ai eu ça sur tellement de vidéos, ou des extraits décontextualisés d'émissions à Blast. Donc on m'a accusé de soutenir des criminels de guerre.
Moi, j'avais vu le buzz de celle sur France Inter, de ne pas vouloir d'enfants et d'un coup.
Ah oui, alors il y a eu ça aussi. Ah oui, celle-là, j'avais répondu en rigolant, effectivement. Ouais. En fait, c'est pas les mêmes invectives parce que ça n'est pas venu de la sphère politique ou de la sphère médiatique. Parce qu'on rappelle, donc, c'est une vidéo, une interview sur France Inter où j'ai mentionné que l'effondrement du monde, enfin en tout cas l'éco-anxiété, était un obstacle à mon désir d'enfant. J'ai même pas dit que je ne voudrais jamais d'enfant. J'ai dit, moi vraiment, je ne me vois pas en mettre dans ce contexte. Et j'ai dit, je respecte ceux qui en veulent et ceux qui n'en veulent pas, en fait. Bon, ça, je ne pensais pas que ça. Typiquement, ça, c'est vraiment pas le contenu où je pensais que ça ferait un bad buzz. Mais ça a fait un bad buzz. Parce qu'il y a eu plein de gens qui sont venus me dire que j'étais égoïste et que je pensais pas aux retraites. Ça me fait trop rire, cet argument. Et donc là, j'ai même pas répondu parce que. Que voulez-vous que je dise ? Enfin, ça n'a aucun sens. Et en plus, pour le coup, j'ai été quand même défendue sur cette question.
Bien sûr.
Je ne l'ai pas particulièrement mal vécu. Mais en fait, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Dès qu'on s'exprime, on se prend un truc.
Ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose chez toi qui fait peur. C'est-à-dire qu'il doit y avoir, pour que ça ait ses effets, tu ne crois pas qu'il y a quelque chose chez toi d'assez pur ? Et ce n'est pas d'incontrôlable, mais qu'on ne pourra pas te museler, en fait. Qu'on ne pourra pas te tordre pour faire dire quelque chose. Et que j'imagine que c'est que tu rentres pas dans le système. Et c'est ça ce qui peut-être certainement à la fois déchaîne les foules de gens qui sont insupportés et qui, je pense, aussi te vaut ton succès, l'admiration, le fait qu'autant de gens te suivent et sont attachés à ta parole. Et c'est une forme de flamme, une force de conviction, une force de caractère, une intégrité. Moi, je trouve que ça transparaît même physiquement. Genre, que tu vois que c'est cette morale, tu vois. Et je pense que c'est rare. Je pense que...
Je dirais peut-être pas la morale. Je dirais, je pense, une intégrité. Je pense que j'essaie d'avoir une vraie intégrité, en tout cas professionnelle, quoi, dans ce que je fais. Mais, alors moi j'aime bien le récit de « je suis trop forte, je l'en fais peur », mais je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'effectivement le fait de s'attaquer à des sujets clivants, que ce sont des sujets de société clivants, intensifie le phénomène, mais je crois pas que ce soit moi particulièrement. Je pense que moi j'en parle, c'est la grande différence. Mais je pense que toi aussi t'as dû recevoir beaucoup de haine en ligne, et que toutes, je dis bien toutes les femmes avec qui je discute, qui s'exposent publiquement, qu'elles soient des femmes politiques, des journalistes, des humoristes, des actrices, des chanteuses, des youtubeuses, toutes subissent du cyberharcèlement à des degrés plus ou moins élevés. Et en fait, c'est ça le problème. Et il n'y a même pas besoin de cliver, en fait. Moi, je pense que ça n'aide pas, clairement, dans mon cas. Mais je crois que c'est un phénomène qui touche d'ailleurs tous les bords politiques. Et moi, j'avais été très choquée de la manière dont était traitée Marlène Schiappa, que je ne porte vraiment pas dans mon cœur en termes de bilan, en termes de droits des femmes, hein, clairement pas, qui objectivement a fait des choses qui sont très problématiques, mais qui a été cyberharcelée, mais à un degré, sur son physique, sur ses vêtements, sur sa voix, sur des choses qui n'avaient absolument pas lieu d'être. Je trouve que c'est insupportable.
Ouais.
En fait, quand bien même on ne partage pas ce qu'elle fait, aller insulter, aller menacer de mort, aller, c'est inadmissible. Et ça, c'est, vraiment, ça vaut pour 100% des femmes dans l'espace public. Moi, je me dresserai toujours contre celles et ceux, et surtout ceux, parce que quand même, il faut rappeler que c'est quand même beaucoup des hommes, qui croient que c'est une manière de faire société et d'exprimer une opposition, en fait. On ne va pas cyberharceler, encore une fois, des femmes. Parce qu'il faut rappeler que les hommes politiques ne subissent pas le même niveau. Ils en subissent aussi, mais on n'est pas au même degré. Et il y a quelque chose de très genré. C'est pas tant, finalement, mes opinions qui clivent que le fait que je sois une femme. Et ça, je le vois, moi, dans ma profession, vraiment, quand on parle avec mes collègues. Ils subissent aussi, hein. Ça veut pas dire qu'ils n'ont rien. Mais c'est pas du tout dans les mêmes proportions. Et le physique n'est pas autant attaqué. Et là, récemment, moi, j'ai publié moi-même des photos qui avaient déjà été publiées publiquement, mais je les ai republiées, où mon corps... Donc c'est une vraie photo de moi, où je suis habillée, mais mon corps a été déshabillé par les intelligences artificielles. Donc on dirait que j'ai posé nue.
Un deepfake.
Et ces photos ont été publiées publiquement par quelqu'un qui, de toute évidence, voulait me mettre très mal à l'aise. Et je me suis emparée du truc en me disant « C'est bon, j'en ai marre, je le publie moi-même, comme ça, c'est bon, tout le monde aura vu ces photos. » Et vous voyez, vous voyez le problème. Et en fait, je connais plein de créatrices de contenu qui ont été victimes de ces deepfakes. Je n'en connais pas un seul homme.
Ouais.
C'est-à-dire que qui on a envie de déshabiller, c'est pas les hommes, globalement. Et qui déshabille les femmes, c'est pas les femmes. Donc, il y a quand même un problème de genre, en fait. Il y a un problème c'est quand même les femmes qu'on cible et c'est les femmes qu'on muselle dans l'espace public. Et vraiment, j'ai tellement d'exemples autour de moi, c'est confondant. La seule différence, c'est qu'en fait, personne n'a envie d'être connu pour être une victime de quelque chose. J'en ai parlé vraiment avec des femmes à qui je disais, mais parle-en, comme ça, on se révolte de ça, qui me disait mais oui, mais après on t'invite dans les médias pour parler du cyberharcèlement que t'as subi, puis on parle pas de ton travail. Et donc pour le coup, moi c'est peut-être un de mes combats justement, c'est de dire ça suffit là, je peux pas exercer ma profession tranquillement, parce que il y a ce cyberharcèlement qui est quotidien et qui continue et qui semble, moi un des commentaires que je reçois le plus quand je dénonce, c'est bah, tu le savais en t'exposant, c'est le jeu d'internet. Mais en fait, je sais aussi que si je sors dans la rue à certaines heures, ou même tout court d'ailleurs, il est probable, hein, ou possible en tout cas, que je me fasse harceler dans la rue, ce n'est pas pour autant que c'est normal. Et on ne peut pas me dire, oh, bah, ça va, t'es sorti dans la rue, donc là c'est la même chose en fait. C'est pas parce que je me suis exposée publiquement et qu'effectivement on sait que ça vient avec, que c'est normal et que je dois l'accepter. Et moi j'espère que les jeunes femmes ou les femmes tout court, parce que ça peut être Elisabeth Borne, ça peut être n'importe qui, vraiment, même des femmes plus âgées, de toute façon peuvent subir ce cyberharcèlement. J'espère que ça, dans le futur, les femmes n'auront plus à subir ça, et plus les hommes non plus, et qu'on pourra s'exprimer sans risquer le dénigrement massif, les menaces, le harcèlement. C'est un fléau.
C'est un fléau, il faut résister. Après, ce qu'on observe, c'est que ce soit le musellement avec toute cette haine en ligne, ou le musellement des institutions qui décident de ne pas donner la parole à des femmes, il y a une
continuité.
Oui, mais il y a une vengeance naturelle qui fait que, par contre, moi, je trouve que ce soit toi ou Paloma Moritz ou Camille Etienne, on a envie de les écouter, on a envie de les suivre, elles ont un grand pouvoir d'influence, ou même, je pense récemment à Judith Godrèche. C'est-à-dire que, d'un coup, en fait, il y a quand même une résistance, une forme de sororité, et que ça rende jaloux ou non. Mais
c'est nouveau, ça. C'est quand même très nouveau.
Oui, c'est récent.
Et quand on pense à Adèle Haenel.
Ouais. Personne.
Moi vraiment, j'en avais été malade à l'époque.
Ouais,
c'était
tout à fait, moi aussi.
C'était fou.
Personne n'était de son côté.
Adèle Haenel, elle a subi vraiment l'opprobre public.
C'est clair, complètement.
Alors qu'elle a raconté exactement la même chose que Judith Godrèche, dans exactement le même genre de circonstances. Et moi, je me réjouis vraiment de ce que fait Judith Godrèche, et surtout, je me réjouis du traitement qui lui est réservé, qui est quand même plus respectueux. Quoique, on a quand même eu des voix pour s'opposer à elle et être tout à fait indécente. Mais effectivement, cette solidarité entre femmes est en train de percer. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et on prend conscience en fait du pouvoir qu'on a à se soutenir les unes les autres. Alors, je dis pas de soutenir n'importe qui parce que c'est une femme.
Hein.
Attention, mais Mais voilà, je pense que c'est une vraie nouveauté et que c'est une des bonnes manières aussi de faire face à cette problématique-là. Et je terminerai après sur la question du cyberharcèlement parce que je ne suis pas en train de dire « ça y est, ma vie est terminée, c'est horrible, je suis pas là pour me faire plaindre particulièrement ». Je me permets d'en parler parce que j'ai une voix qui est écoutée. Pas toute la France, mais une partie des gens, et que là j'ai un podcast où je peux m'exprimer, et qu'il y a plein de femmes qui subissent ça, qui sont pas forcément aussi exposées, et qui pourtant même sont anonymes, on sait maintenant les dégâts que ça fait, et qui n'ont pas cette possibilité d'expliquer ce qu'elles vivent, et qui doivent gérer les conséquences de ça toutes seules. Et il y a des personnes sur qui ça a des conséquences dramatiques, et il faut que ce soit pris au sérieux. Et moi je le dis même pour les gens qui nous écoutent, quand quelqu'un de votre entourage vous dit « Ah, on m'a mis tel commentaire », parce que vraiment, il n'y a même pas besoin d'être très connu.
C'est vrai, t'as raison.
Il faut le prendre au sérieux. Si on vous insulte dans la rue, ça a des conséquences.
Bien sûr.
Ça vous fait du mal. Vous pouvez ressentir de l'anxiété, de la peur. Si on vous insulte sur Internet, c'est pareil, on le lit, on l'entend. Donc il faut vraiment que ça cesse, qu'on prenne ce problème au sérieux. Et c'est pas mon cas. J'insiste vraiment sur... il s'agit pas de dire c'est mon cas et donc il y a un problème, c'est l'homme attaqué. Pas du tout. Je pointe un truc que je vis, que vivent toutes les femmes que je connais, et qui n'est pas normal, et contre lequel nous devons lutter, et qui peut, dans certains cas, et ce n'est pas mon cas, avoir des conséquences très très graves.
Complètement, et puis alerter et sensibiliser les gens au côté malsain des commentaires, parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois que des gens, des hommes comme des femmes, confessent qu'ils lisent tous les commentaires, mais avec une forme d'avidité un peu perverse, et quel que soit... Ça peut être des...
non, mais, c'est marrant, qu'est-ce qu'ils veulent te dire quand ils disent ça?
C'est bizarre, c'est comme si... c'est un peu de la manière dont on a pu se faire manipuler dans l'histoire d'Amber Heard, c'est un peu comme si... En fait, comme il y a une majorité de gens vénères qui vont s'exprimer dans les commentaires, le problème, c'est que le love prend peu, parfois, le dessus, et que les gens lisent. La dernière fois, je parlais avec des amis de mon copain, enfin, tu vois, et la nana, super, avocate, féministe et tout. Et on parlait d'une invitée que j'ai reçue dans mon podcast, Marie Saint-Filtre. Donc, il y a un personnage clivant, on aime ou on déteste. Ce qu'on peut pas nier, par contre, c'est qu'en termes de haine en ligne...
Elle récolte. J'ai déjà vu passer plusieurs fois.
Horrible. Et menaces et des choses plus graves, voilà. Mais et donc cette nana disait qu'elle n'était pas fan de Marie. Je disais Marie, on aime, on déteste. Mais elle disait ouais. Et puis je lui dis mais bon, en tout cas voilà. Je dis après, elle a une tournée des Zénith, elle cartonne. Et puis elle disait ah ouais, mais les commentaires. Je disais, les commentaires, il y a des rageux. Elle était allée lire tous les commentaires. Je dis, mais c'est bizarre, parce que, résultat, si t'aimes pas ses vidéos, si tu prends pas ta place pour son spectacle, pourquoi tu vas lire les commentaires?
En fait, moi, c'est ça le... Il faut vraiment, je pense, distinguer, enfin, faire une distinction dans les commentaires. Il y a les commentaires de haineux, total. Bon, là, vraiment, je comprends pas ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens consomme un contenu visiblement qu'il n'aime pas. Si vous aimez pas quelqu'un, passez votre chemin, en fait. En plus, les algorithmes sont faits d'une telle manière qu'on vous le reproposera probablement pas. Vous pouvez même mettre ne plus me proposer cette personne. Voilà, si vous aimez pas le travail de quelqu'un, ce que j'entends parfaitement, vous n'êtes pas obligé, ça tombe bien, de le regarder. Il y a une offre incroyable, donc voilà, au lieu de passer du temps... Et ensuite, il y a les problèmes, les personnes qui peuvent heurter une sensibilité, ont un contenu qui peut vraiment heurter parce qu'on pense que ça fait du mal à la société. Donc là, c'est différent. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, mettons-nous dans nous ce qui pourrait nous toucher, mais si on voit quelqu'un qui dit vraiment les femmes ne devraient pas avoir les mêmes droits que les hommes, on a un peu envie de commenter pour dire...
Ferme ta gueule.
Oui, justement. Mais justement, c'est là où je pense qu'il ne faut pas écrire ferme ta gueule. Et que si on veut commenter et ouvrir une discussion, un débat ou expliquer pourquoi... Bon, là, je prends un cas extrême. Je veux dire, moi, je sais que je peux produire du contenu, je sais pas, qui peut heurter une sensibilité. Je l'entends très bien. Mais dans ces cas-là, exprimez-vous de manière polie, construite, expliquer le contenu, ce qui ne va pas là-dedans, et ça suffit. Si vraiment une vidéo vous pose problème, c'est-à-dire que ça a heurté vraiment un truc en vous, et que c'est pas juste que vous aimez pas la personne, c'est peut-être à ça aussi que servent les espaces commentaires, à avoir un débat, mais si c'est juste pour dire vraiment t'es trop conne, ça ne sert à rien en fait. Ou pour avoir un gros truc, notamment sur Twitter, c'est vraiment la malhonnêteté intellectuelle. C'est de dire de toute façon t'es une féministe hystérique, ou au contraire t'es anti-féministe, ou j'en sais rien. Bon, en fait ça n'a rien apporté. Donc posez-vous la question, à quoi sert votre commentaire en fait? Si vous pensez qu'il est utile de le poser pour que les personnes qui vont justement lire cet espace commentaire puissent avoir d'autres arguments et puisse regarder la vidéo d'un autre angle et tout, mais très bien. Moi, je dis pas de pas commenter ou de commenter que pour des trucs sympas. Je comprends qu'on ait de la critique à émettre, mais il y a une manière de l'émettre sans humilier, sans et c'est fait. Je vois aussi, il y a des gens qui savent très bien le faire.
Ouais.
Ça, tout le monde n'est pas un rageux sur Internet. Ouais. Et inspirez-vous de ce type de commentaires. Mmh. Moi, ça m'est déjà arrivé vraiment qu'on me dise, bah là, tu vois, tu t'es ou alors tu t'es même trompé, ou moi j'ai lu telle étude. Alors mieux, c'est quand il y a des sources là. Vraiment, on attend. Là, c'est merveilleux. Wow. Où on nous dit, bah vraiment, c'est pas ce que nous dit tel, j'en sais rien, tel ONG. Et ça ouvre un débat et c'est passionnant. Ça peut être même intéressant pour le créateur ou même de constater la portée politique de telles déclarations qu'on a pu faire et on n'y a pas pensé, mais juste n'allez pas agresser les gens en fait d'une manière ou d'une autre. Ça me semble évident, mais il faut le répéter visiblement. Et je pense qu'il y aurait des grandes discussions à avoir là-dessus et on devrait faire des émissions là-dessus, parler, enfin moi j'essaie un peu à blast, mais parce que c'est il y a vraiment une idée surtout chez les journalistes que ce qui se passe en ligne, bon ça va, c'est en ligne quoi. C'est une grande agora publique, c'est une grande, un grand endroit où on peut tous s'exprimer, c'est énorme d'un point de vue démocratique. Il y a des élections qui se jouent sur les réseaux sociaux, il faut quand même le rappeler. Donc en fait, on a besoin de faire évoluer les mentalités, également l'encadrement juridique. On a besoin de prendre cette question extrêmement au sérieux.
J'ai pas eu le temps de te poser la question de la petite fille. Mais je passe au questionnaire de Proust. Salomé.
Oui.
La qualité que tu préfères chez un homme.
Oh. La gentillesse. C'est bateau, mais je pense que c'est la générosité, la gentillesse.
La qualité que tu préfères chez une femme.
Est-ce que c'est si différent? Ouais, je pense que ce serait un peu la même qualité. C'est cette idée de générosité, d'attention à l'autre. Sauf que c'est quand même, de par notre éducation, plus répandu chez les femmes que chez les hommes.
Le principal trait de ton caractère?
Déterminé.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Leur fidélité.
Ton principal défaut?
Perfectionniste. Je rigole. C'est dur comme question. Heureusement que j'ai jamais passé d'entretien dans nos bouches. On m'a posé ça comme question. Je pense parfois ma sensibilité à certains sujets. Justement, j'essaie de travailler là-dessus.
Ouais, c'est beau.
Ouais, c'est beau, mais ça peut vraiment être un défaut pour le coup. Justement, dans mon métier, il me faut quand même mettre une certaine distance avec ce que je fais.
Je me suis demandé comment t'avais réussi à ne pas pleurer devant Gaultier Tefarani.
Ah punaise. Typiquement, cette interview que je vous invite vraiment à regarder, qui est sur cette actrice iranienne, qui est sur Blast, j'ai lutté pour ne pas pleurer face à elle. Parce que c'était tellement
déchirant
ce qu'elle racontait. Et puis elle-même, à un moment, fond en larmes. J'étais à deux doigts. À un moment, j'essaie de me ressaisir un peu. Je me dis, ok, c'est moi la journaliste. C'est pas du tout le moment de craquer. Mais typiquement, c'était un moment où... C'est pas le moment d'être trop sensible, quoi. Et c'était pas évident.
Ton occupation préférée?
Le journalisme. Non, je suis désolée, je pourrais dire des loisirs et tout, mais ce que je préfère faire dans la vie, ça reste du journalisme.
Ton idée du bonheur?
J'ai envie de dire des trucs, ça y est, là, je suis en élection pour Miss France. Je n'ai pas de mépris pour Miss France, je précise, mais c'est vrai que là, j'ai des trucs un peu qui me viennent pas forcément très, très aboutis. Je ne sais pas, mon idée du bonheur, c'est hyper difficile comme question. C'est quoi, toi, ton idée du bonheur?
C'est un peu comme ce que tu as dit dans ton occupation préférée. Il y a quelque chose à la fois de pouvoir faire ce qu'on aime à tout prix. Je pense que c'est sûr que c'est ça. Si on nous enlève la scène ou le journalisme, comment est-ce qu'on vit? Et puis, il y a aussi un aspect plus des autres.
Mais pour moi, c'est l'amour, en fait. C'est pour ça que je disais que c'est discours, j'ai l'impression de donner un truc un peu bateau, quoi. Mais je crois que pour moi, l'idée du bonheur, c'est vraiment là où il y a de l'amour, quel qu'il soit. Et je pense que c'est aussi ça qu'on cherche tous et toutes. C'est aimer et être aimé. Aimer.
Quel serait ton plus grand malheur?
De perdre mes proches.
Où aimerais-tu vivre?
En Espagne. Alors là, totalement. Ouais. Mais j'ai fait mon Erasmus là-bas, à Madrid, plus précisément.
Vraiment. À Madrid,
Oui.
Je suis tellement féministe aussi.
C'est carrément. Mais c'est là, moi, que je me suis beaucoup formée sur le féminisme. Mmh. C'est à Madrid. Et j'ai une nostalgie immense de la période où j'ai pu vivre dans cette ville merveilleuse. Donc, j'espère vraiment pouvoir retourner y vivre un jour. S'il ne fait pas trop chaud avec le réchauffement climatique.
Et c'est incroyable parce qu'à Madrid, en Espagne, tu vois, dans cette discussion, t'as beaucoup dit attention, ne prenez pas à la légère la haine en ligne. Et j'ai l'impression que c'est là où les Espagnols y sont forts. C'est que le fait d'entendre et d'écouter les femmes, ça se perçoit sur des choses infimes, petites. Moi, je sais que j'ai des gros soucis d'oreille interne. Donc, quand je prends l'avion, je sais que c'est pas bien de prendre l'avion, mais je l'ai pris récemment pour aller à Madrid. J'aurais pu prendre le train. J'ai fait une date de mon spectacle. Et en fait, à cause de mes oreilles, je peux tomber dans les pommes, perdre l'équilibre. Et souvent, quand je voyage pas assez souvent, mais quand je voyage et que je dis par exemple à une compagnie française, ils me disent oui, bon, bah, mâchez du chewing-gum.
Là, et oui, ils étaient plus attentifs.
Ils m'ont tout de suite mis devant. Ils ont écouté ma douleur, en fait. Ils m'ont pris au sérieux. Ils l'ont tout de suite dit. J'ai été sortie en premier. J'ai pas eu besoin d'insister. J'ai dit, je souffre de ça. C'est pas très connu. C'est un peu compliqué. C'est pas très grave, mais c'est juste que je perds. Même pas eu besoin de donner tous ces arguments. Et je suis sûre que c'était juste. Ils sont plus éduqués à écouter les femmes.
Après, c'est comme toute société. Désolée, je repars en analyse politique deux secondes. C'est très fracturé. Il y a aussi une montée de l'extrême droite, un catholicisme très conservateur. Donc, toute la société espagnole, je ne veux pas l'idéaliser, n'est pas féministe. En tout cas, il y a eu des progrès dans la sphère médiatique et chez une partie des militantes.
C'est une réaction. C'est parce que c'est parti aussi loin
exactement.
Dans le progrès.
Et surtout dans l'appareil juridique. Aujourd'hui, l'Espagne, c'est un des pays qui lutte le mieux contre les violences sexistes et qui est proposé comme des recommandations par, je pense notamment à l'association Choisir la cause des femmes qui a écrit un livre sur le sujet, sur en fait à quoi ressemblerait un ensemble de lois qui permettrait efficacement de lutter contre les inégalités et les violences. Et dedans, à plusieurs reprises, eh bien, elles disent ça ressemblerait à ce qui se passe en Espagne, notamment sur toutes les questions de violence, parce qu'ils sont ultra en avance sur nous. Et c'est en ça qu'on voit que le travail des féministes espagnoles a vraiment porté. Et donc, quand on est dans la société, forcément, ça se ressent. Et c'est super agréable, quoi.
Salomé, ce que tu détestes par-dessus tout ?
Ah, la mauvaise foi. Ah oui, vraiment la mauvaise foi. C'est le truc qui m'énerve vraiment.
Comment aimerais-tu mourir ?
Pour un truc utile, hein, je pense, évidemment. Très idéalement, si je peux mourir dans quelque chose, que ma mort serve à quelque chose... Franchement, ce serait la plus belle des morts. Donc, je ne sais pas exactement dans quel contexte, ça dépendra de ce qui se passe au moment où je m'approche de la mort. Mais je pense que j'aimerais bien que, on meurt qu'une fois. Donc, autant que ça serve. C'est un acte fort de mourir. Donc, autant que ça ait une utilité d'une quelconque manière.
Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel ?
Je suis plutôt sereine, je dirais, si je devais dire un état d'esprit. Okay. Là, ça va plutôt bien. Alors, je pense que pour des gens vraiment sereins, on prendrait pour une excitée complète. Mais moi, par rapport à mon mois d'avant, je pense que je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, et puis que j'ai beaucoup plus confiance en moi aussi.
Merci Salomé.
Ah, merci à toi pour l'invitation.
Et voilà, c'était l'incroyable Salomé Saquet. Je répète beaucoup tout à fait en l'écoutant, mais c'est parce que j'étais vraiment souvent tout à fait d'accord avec elle. Et notamment sur l'importance du militantisme, mais auquel je préfère moi en ma qualité d'artiste, l'engagement. Mon spectacle est engagé, mon livre l'est, mon podcast l'est. Enfin, après bien sûr que je milite pour qu'on ait un plus grand accès à la congélation d'ovocytes par exemple, mais en tant qu'humoriste... Non Minou, pas maintenant là. Mais en tant qu'humoriste et à travers les interviews, enfin, ce qui me tient à cœur, c'est d'informer en décomplexant avec la distance qui me permet de faire des blagues, voilà, et de toujours maintenir une réflexion, d'explorer les contradictions. Enfin, en tout cas, comme Salomé, je vois aussi beaucoup le danger dans le fait de trop dire oui à tout et de crouler sous le travail. Donc, je continue à me discipliner pour savoir dire non, avoir cette confiance. Je pense que la confiance varie. Chaque jour, franchement. Parfois, ce qui m'aide quand je sens que je sombre dans les doutes ou l'autodépréciation... Non, Minou, justement, je suis en train de parler de confiance en soi, là. Si j'ouvre la fenêtre, ça va faire encore du bruit. Donc, 2 minutes. Ce qui m'aide, c'est... Voilà, je me dis... J'essaie de me raisonner par ces mots. Je me dis, Rosa, tu ne peux pas faire autre chose que toi. Ce que tu as à offrir, Rosa, c'est toi. N'essaie surtout pas de vendre autre chose, ça marchera pas. À chaque jour suffit sa peine. Et même si la période est sombre et qu'il y a beaucoup de souffrance dans le monde et des milliards de bonnes raisons pour être en panique pour la planète, il faut aussi réussir parfois à,
à faire confiance, à faire de la place à la lumière et à la bonté. Parce que c'est pas parce qu'on a rencontré des méchants et qu'ils nous ont traumatisés que tout le monde l'est. Voilà, le tous pourri, je pense, vraiment sert à rien. Et on trouve les personnes que l'on doit trouver et qui nous élèvent. Et Salomé Sacquet en fait partie. Je suis vraiment honorée de l'avoir reçue dans le podcast. Je vous embrasse très fort. J'arrive, Minou.
J'arrive.
Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.